les mix électriques possibles d'ici à 2050. Rappelons qu'il y en a trois qui sont sans EPR, trois avec des EPR. Donc, on a trois possibilités de ne pas faire des EPR. La différence de coût n'est pas très importante et elle est liée au coût du capital. Ils ont pris le même coût du capital pour le nucléaire et pour les énergies renouvelables. Or, l'AIE prend 8% pour le nucléaire parce que c'est beaucoup plus risqué. Les délais ne sont jamais assurés. Et donc, c'est vraiment un biais qui a été pris. Et la taxonomie, ça vise à ça, avoir de l'argent pas cher pour essayer de faire du nucléaire un petit peu moins cher, mais il reste à des coûts beaucoup plus élevés dans tous les cas que le renouvelable.
Sur les délais et le coût, juste un chiffre quand même, Flamanville, qui devait être mis en service en 2012, on est en 2022, pour l'instant,
toujours pas.
Le coût était de 3,3 milliards d'euros. La Cour des comptes aujourd'hui, on est à 19,1 milliards d'euros.
L'exemple allemand n'a pas été décisif finalement dans le retour en grâce du nucléaire en France.
Écoutez, peut-être, merci de poser la question, parce que effectivement, après 500 milliards d'investissements, 20 ans de politique extrêmement déterminée et volontariste en faveur d'une sortie du nucléaire, avec une tentative de le remplacer par des énergies éoliennes et solaires intermittentes, hein, qui, rappelons-le, sont absolument nécessaires, mais ne pourront pas conduire à la sortie des fossiles. Elles sont incapables de se substituer à des capacités fossiles. Aujourd'hui, l'Allemagne paye son électricité deux fois plus cher que la France, a des émissions de carbone extrêmement élevées et un recours au charbon bien plus élevé que le nôtre, puisque c'est la majorité de son électricité aujourd'hui. Donc la taxonomie, vous en avez parlé, c'est un événement extrêmement important. Parce que l'Union européenne reconnaît finalement ce que tous les scientifiques, y compris le GIEC, y compris son propre organisme de recherche, l'Agence internationale de l'énergie, dit depuis longtemps, qui est que le nucléaire est indispensable à la transition énergétique et à une transition énergétique très bas carbone, hein, puisque c'est l'énergie la plus bas carbone en France, hein, de très loin. D'accord. Et que, notamment, il répond positivement à tous les critères, y compris Do not significant harm, y compris concernant la gestion,
même sur la gestion des déchets.
Sur la gestion des déchets. Le rapport du Joint Research Committee confirme que le nucléaire est aussi vertueux, voire plus, que l'ensemble des énergies qui sont déjà intégrées au sein de la taxonomie.
Donc,
ce qui est scandaleux, c'est effectivement qu'il ait été associé au gaz, qui lui est une énergie.
Alors, il faut cesser d'instrumentaliser le GIEC, ce groupe d'experts sur le climat. Le GIEC n'a pas d'avis sur telle ou telle technologie. Il y a des scénarios avec plus de nucléaire, il y a des scénarios avec moins de nucléaire. Donc, toute une palette, le GIEC collecte ces données et il regarde ce qui existe. On peut faire les deux. Donc, le GIEC n'a jamais dit qu'il fallait faire plus de nucléaire. Ça, c'est absolument faux. Ce qui est clair, c'est que l'EPR, par contre, les faits, c'est que l'EPR, c'est un peu un pari. On sait quand on commence à le construire, on ne sait pas quand ça va commencer à produire de l'électricité et à quel coût. C'est très, très actuellement, l'électricité produite par les EPR, en tout cas en construction, va être excessivement chère. Donc, j'aimerais pas être le chef d'État qui, en 2040, sera en attente d'EPR qui peut-être ne produiront pas et qui n'aura pas développé les énergies renouvelables au rythme attendu. La France est le seul pays en Europe en retard sur les énergies renouvelables. On est vraiment à la traîne. Les économies d'énergie, de la même manière, on a décalé notre objectif de 5 ans, alors qu'il faut miser vraiment sur les renouvelables et les économies d'énergie. C'est ça les vrais leviers. Et malheureusement, en 2040, il risque d'être trop tard.
L'énergie, elle nous concerne tous.
Il y a des exemples de pays qui ne vivent que de l'énergie renouvelable et qui arrivent à s'alimenter énergétiquement comme ça.
Alors oui, il y a complètement. L'Autriche, me semble-t-il. Donc c'est la raison pour laquelle... d'ailleurs aujourd'hui ils sont plutôt contre le nucléaire. Vous avez des pays nordiques qui vivent beaucoup de l'hydraulique, mais ce sont forcément des pays qui bénéficient d'une structure ou d'un environnement,
géographie et d'une taille.
Après en France on a aussi on a notamment des côtes qui sont très, on a une pluralité dans nos paysages qui favorise le mix énergétique, et ça peut être effectivement très important.
Avec les populations qui ne sont pas toujours d'accord pour des implantations d'éoliennes, et ça, c'est aussi un problème.
Alors, c'est un problème, et par exemple, il y a l'éolien offshore qu'on n'a absolument pas développé. Et qui pourrait, en mer près des côtes, voire flottant, donc à une cinquantaine de kilomètres des côtes, qui permettrait là aussi de fournir une autre forme d'énergie avec moins de problèmes, que notamment d'implantation, que ceux qu'on connaît sur le terrain.
Il y a six pays dans le monde qui ont décarboné décarboner intégralement leur système électrique. C'est des pays tous à base de nucléaire et d'hydraulique. Et les pays renouvelables qui l'ont fait, c'est de l'hydraulique et de la géothermie, qui sont donc des exercices pilotables. Et pour ce qui est des scénarios du GIEC, c'est 96% des scénarios du GIEC qui intègrent du nucléaire, dont les quatre principaux qui sont considérés comme les plus représentatifs de ce qu'il est possible pour atteindre les 1,5 degrés, qui tous appellent entre x2 et x6 le parc nucléaire mondial. Donc je pense que c'est des proportions qu'il est important de rappeler.
Très bien.